Bienvenue dans notre analyse. On va commencer aujourd'hui avec une idée qui peut surprendre un peu. Et si le handicap, ce n'était pas juste une question médicale, individuelle, mais plutôt une construction sociale ?
Oui, c'est exactement ça. C'est souvent l'environnement, la société, qui met ou non une personne en situation de handicap.
C'est ce qu'on va explorer. On va regarder un peu l'histoire, les enjeux actuels en France, pour comprendre d'où l'on vient et où l'on va sur ce sujet.
Absolument. Et le point de départ, c'est vraiment important. C'est ce changement de mot. On ne dit plus handicapé, mais personne en situation de handicap. Ça change tout le regard, en fait.
Ah oui.
Pourquoi c'est si fondamental ? Mais ça souligne que la difficulté, elle naît de la rencontre entre une personne avec ses capacités propres et un environnement qui n'est pas adapté. Donc une société plus accessible, elle réduit le handicap, la responsabilité devient collective. C'est la base de l'idée de compensation et d'accessibilité universelle.
D'accord, je vois. Alors, pour comprendre ça, un petit retour en arrière s'impose, non ? Comment on voyait les choses avant ?
Oula, oui, on vient de très loin. Dans l'Antiquité, on pouvait aller jusqu'à l'abandon. Au Moyen-Âge, c'était plutôt la charité, parfois mêlée de crainte. Même si, attention, il y avait des formes de reconnaissance ailleurs, comme en Égypte ancienne par exemple.
Et la révolution industrielle, ça a changé quoi ?
C'est ambivalent. D'un côté, on affirme de nouveaux droits pour tous, mais de l'autre, on a aussi une logique d'utilité, d'exploitation des corps, se juger inutiles, sont mises à l'écart. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'émergent des figures importantes, comme Pinel pour la psychiatrie, ou des outils comme le braille, la langue des signes, des formes de soutien qui naissent.
D'accord. Et puis, il y a un concept qui arrive et qui semble tout changer, la réparation. C'est ça.
Exactement. La notion de réparation, elle naît vraiment des grandes crises sociales. D'abord avec la loi de 1898 sur les accidents du travail.
Ah oui, très importante celle-là.
Fondamentale. Elle dit que l'employeur est responsable du risque, même sans faute prouvée. L'indemnisation devient plus systématique.
C'était une grosse bataille des syndicats, ça.
Et ensuite ? Ensuite, après la Première Guerre mondiale, c'est la loi de 1919 sur les mutilés de guerre. Là, on franchit un cap. On ne parle plus seulement d'assistance, mais d'un droit à réparation. C'est la fameuse dette de la nation envers ceux qui ont donné leur corps.
C'est intéressant de voir ce parallèle entre le travailleur et le soldat.
Oui, c'est le corps abîmé au service de la collectivité, qu'elle soit économique ou militaire. Et ce droit à compensation, c'est une conquête, hein, pas un cadeau.
Une vraie conquête sociale, donc. Et après 1945, avec la mise en place de la sécurité sociale, comment est-ce qu'on évolue vers l'intégration ?
Alors, la Sécu, au début, elle couvre surtout les risques liés au travail, y compris l'invalidité. Mais pour une allocation vraiment spécifique aux personnes handicapées hors travail, il faut attendre 1949. Et puis 1957, on reconnaît le statut de travailleur handicapé avec un premier quota d'emploi, mais qui restait assez théorique, on va dire.
Donc, les grandes lois structurantes, elles arrivent plus tard, c'est ça, hein ? Après 68.
Voilà, c'est là que les choses bougent vraiment. La loi de 1975, c'est un tournant majeur. Elle pose le principe d'intégration en milieu ordinaire. C'est aussi la création des COTOREP pour l'orientation professionnelle et surtout de l'AHH.
L'allocation aux adultes handicapés. Un revenu minimum en quelque sorte.
C'est ça, pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Puis en 1987, autre loi clé, l'obligation d'emploi de 6% dans les entreprises. Elle est toujours là celle-là.
Avec l'AGFIP pour collecter les fonds et aider à l'emploi.
Exactement. Et on arrive à la loi 2005. Là, on change encore de philosophie, non ?
Oui, on parle d'égalité des droits, de participation, de citoyenneté.
Tout à fait. Le maître mot, c'est le droit à compensation. C'est individualisé, basé sur les besoins de la personne pour son projet de vie. Et on crée les MDPH.
Les maisons départementales des personnes handicapées. Le fameux guichet unique pour simplifier les démarches.
En théorie, oui. Mais... Et c'est un gros mais que soulignent nos sources. La mise en œuvre de cette loi de 2005, elle est incomplète.
Ah bon, pourquoi ?
Il manque encore des décrets d'application importants, par exemple sur l'accessibilité réelle des lieux de travail. Donc, de grands principes, mais une application partielle.
Ce qui nous amène à la situation actuelle. On a eu des progrès récents, comme la déconjugalisation de l'AAH en 2023.
Oui, ça, c'était une demande forte et ancienne. Ne plus tenir compte des revenus du conjoint pour calculer l'AAH, c'est une avancée pour l'autonomie.
Mais malgré ça, les défis restent énormes, si je comprends bien.
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chômage des personnes en situation de handicap, c'est toujours quasi le double de la moyenne nationale, autour de 13%.
Et la pauvreté aussi, j'imagine ?
Pareil, le double. Environ 26% vivent sous le seuil de pauvreté, même après les aides. Et l'AEH elle-même, son montant reste sous ce seuil.
C'est quand même fou. Et on voit aussi plus de bénéficiaires de l'AEEH ou de pensions d'invalidité.
Oui, il y a une augmentation. C'est lié en partie à une meilleure reconnaissance, peut-être aux réformes des retraites aussi. Mais ça pose question sur la précarisation du travail et de la santé au travail. Sans oublier qu'on soupçonne une forte sous-déclaration. Tout le monde ne demande pas la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés.
Il y a la question de la discrimination au quotidien.
C'est le premier motif de plainte auprès du défenseur des droits. Chaque année, c'est autour de 20-22%. Ça concerne souvent le non-respect des aménagements de poste qui sont pourtant préconisés.
Malgré les lois, donc, pourquoi ça bloque? Manque de moyens?
C'est un facteur. Les budgets augmentent, oui, mais est-ce suffisant face aux besoins réels? Le débat sur le financement de la cinquième branche autonomie le montre bien. Et puis, il y a la lourdeur administrative. Les délais pour obtenir une aide, une reconnaissance, c'est parfois vécu comme une forme de maltraitance institutionnelle. Et l'accessibilité, notamment numérique, reste très limitée.
Tout ça donne l'impression que la façon dont on traite le handicap, c'est un peu un miroir de notre société.
Complètement. Ça révèle nos valeurs profondes. Cette focalisation sur la productivité, la rentabilité immédiate, ça peut créer une suspicion envers ceux qui demandent une aide, un aménagement.
Les quotas d'emploi, par exemple. C'est nécessaire, mais ça montre bien qu'on n'est pas dans une inclusion spontanée.
C'est une béquille indispensable face à la discrimination persistante, oui. Mais dans une société vraiment inclusive, on en aurait théoriquement plus besoin. C'est un objectif, quoi.
Et cette pression générale à l'intensification du travail, à être toujours disponible, ça doit jouer aussi.
Énormément. Ça discrimine de fait tous ceux qui ont des contraintes, que ce soit lié au handicap, au fait d'être aidant pour un proche ou même d'avoir des enfants. Une société qui exige toujours plus, plus vite, elle devient plus sélective et donc plus excluante pour certains.
Donc, si on résume, on a un parcours historique marqué par des lois importantes, souvent gagnées de haute lutte, mais l'application concrète, l'inclusion réelle, ça bute encore sur des obstacles financiers, administratifs et peut-être surtout culturels.
C'est tout à fait ça. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite, je crois. Au-delà des aides financières et des quotas, qui sont essentiels mais pas suffisants, la vraie question c'est... comment on fait pour que la société elle-même arrête de produire du handicap par ses exigences, par son manque d'adaptation? Comment on passe d'une logique où l'on compense après coup les limitations à une refonte de nos normes au travail, dans la ville, dans nos rythmes, pour une inclusion qui soit pensée dès le départ, pour tout le monde?
Une refonte de nos normes pour une inclusion universelle. Vaste programme. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.